L'histoire qui va vous être racontée est vraie. Elle s'est passée il y a 400 ans dans un lointain pays d'Amérique du Sud, appelé le Mexique. Le Mexique, avant l'arrivée des conquérants espagnols, était livré à la barbarie. On y sacrifiait des êtres humains aux dieux païens, sur les autels des temples monumentaux qui bordaient sa capitale. Fernando Cortés, capitaine espagnol, découvrit le pays et y débarqua en 1519. Il se livra au pillage systématique avec ses soldats. Avec leurs armes nouvelles, il leur fut facile de triompher des Indiens. Les pères missionnaires qui débarquèrent dans le pays, à leur suite, eurent beaucoup de mal à se faire accepter des indigènes. Ainsi, le Mexique restait en grande majorité païen. Or, un jour, deux Indiens, un homme et une femme, marchent vers la mission. Ils sont fiancés. L'homme rassure sa jeune fiancée. « Je t'assure que les pères de la mission nous veulent du bien. » Ils écoutent parler le missionnaire. « Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, l'adorer et le servir. » À la fin, nos dieux fiancés s'avancent vers le Père. Ils veulent recevoir le baptême. San Diego, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis c'est le tour de la fiancée Marie-Lucie. Ce fut le début d'une grande aventure. Leur joie fut de courte durée. Marie-Lucie meurt bientôt d'une forte fièvre. Jean Diego, je suis heureux de retourner à notre bon Père du ciel. Je t'attends là-haut. Je prierai pour toi. Adieu. Deux ans se sont écoulés depuis la mort de Marie-Lucie. Jean Diego a retrouvé la paix et la sérénité. Nous sommes le matin du samedi 9 décembre 1531. Jean Diego chemine frileusement au pied de la colline de Tepeyac. Il est pressé car il veut arriver à temps pour écouter la messe. Soudain, quelle n'est pas sa surprise d'apercevoir une lueur inattendue. Il s'approche de la lueur et il voit au milieu une très belle dame qui lui demande où il va. « Je vais à Mexico écouter la messe. » La dame lui dit « Je suis la Vierge Mère de Dieu, Créateur du ciel et de la terre et Sauveur du monde. Je viens pour vous exprimer un désir. Je voudrais en ce lieu un sanctuaire où je puisse déverser sur mes fils tout mon amour. » Jean Diego lui demande alors ce qu'il doit faire. « Allez trouver l'évêque de Mexico, lui dit la Vierge. Vous lui direz que c'est moi qui vous envoie. Ne craignez rien, je vous aiderai et je vous protégerai. » Ce ne fut pas chose facile pour le pauvre Indien de se faire recevoir par l'évêque de Mexico. L'évêque n'est même pas du tout convaincu. C'est bien, mais je ne peux pas perdre du temps. J'ai beaucoup à faire. Venez une autre fois. Jean Diego s'en va de nouveau trouver la Vierge Marie et lui explique son embarras. Mon très cher fils, vous savez bien qu'il ne me manque pas les moyens pour obtenir ce que je désire, mais je veux que ce soit vous qui fassiez ce que je demande. Demain matin, retournez voir l'évêque. Le lendemain matin, 10 décembre, Jean Diego frappe à la porte de l'évêque. Il lui explique que la Mère de Dieu est revenue pour demander la construction d'une église en ce lieu. L'évêque, cette fois-ci, l'écoute. Puis il dit « Mon cher fils, comprenez que votre parole ne suffit pas. Donnez-moi une preuve de la véracité de l'apparition et je vous croirai. » Pourtant, mon Seigneur reste pensif. Après tout, si c'était vrai, il demande à deux serviteurs de suivre le brave Jean Diego et de ne pas le lâcher d'une semelle. Mais nos deux serviteurs ont perdu sa trace. Ils le cherchent partout, pas moyen de le retrouver. Il va bien falloir donner une explication à l'évêque. Arrivé près de Monseigneur, il lui raconte que Jean Diego est un affabulateur, qu'ils ne l'ont pas lâché d'un instant et qu'ils n'ont rien vu ni entendu de spécial. Décidément, l'affaire ne s'arrange pas. Le pauvre Jean Diego est fort dépité. Il va de nouveau trouver la Vierge. Il lui confesse qu'il n'est qu'un pauvre ignorant et qu'elle ferait mieux de chercher quelqu'un d'autre pour faire sa commission. « Non, cher fils, lui dit la Vierge, c'est vous qui êtes mon ambassadeur. Puisque l'évêque veut une preuve, venez demain matin. Je vous donnerai le signe demandé et je vous récompenserai ainsi de tous les sacrifices que vous faites pour moi. » Mais le jour suivant, Jean Diego ne peut aller au rendez-vous. Son vieil oncle tombe malade et réclame un prêtre. Il faut partir. Voilà bien encore quelque chose de nouveau. Le mardi 12 décembre, Jean Diego se lève et part, au plus vite, car l'état de son oncle s'est aggravé durant la nuit. Pauvre de moi, comment ferais-je pour être au rendez-vous de la dame? Et puis que va penser la Vierge en me voyant pas arriver? Je ne sais si je commets une faute grave, mais je dois avant tout trouver un prêtre pour mon vieil oncle mourant. Il cheminait ainsi absorbé par ses pensées quand, soudain, une grande nuée lumineuse apparut, la même que la dernière fois. C'était la Vierge. Où allez-vous, mon fils? Et pourquoi avez-vous changé votre trajet ce matin? Et le pauvre Jean Diego, craintif de lui expliquer la maladie du vieil oncle et le prêtre qu'il faut aller chercher. La Vierge répond, ne vous inquiétez plus, mon cher fils. À l'heure qu'il est, votre vieil oncle est guéri. Jean Diego la remercie et lui demande le signe convenu. Allez, mon fils, allez au sommet de la colline où vous m'avez vu la première fois et cueillez les roses que vous y trouverez. Jean Diego obéit. Il découvre des roses magnifiques, il les cueille. Il les rapporte à la Vierge dans son manteau, une espèce de châle qui lui sert pour se protéger du froid. La Vierge, après avoir touché de la main quelques-unes des fleurs, recommande à Jean Diego de les porter à l'évêque, mais surtout de ne les montrer à personne en chemin. Il ne doit ouvrir son manteau qu'en présence de l'évêque. Serrant son trésor contre sa poitrine, Jean Diego fait route vers le palais épiscopal. Alors, fils, quelle nouvelle avez-vous à raconter? Où est la fameuse preuve que je vous ai demandée? Et à ce moment, Jean Diego ouvre le manteau qui renferme les roses, mais à la place des fleurs, il découvre une magnifique image de la Vierge Marie. L'évêque en est tout bouleversé. Il demande pardon pour avoir fait si peu de cas de l'apparition. Il se prosterne à terre et baisse dévotement l'image sacrée. C'est un cadeau de notre Mère Céleste. Oui, Mère Sainte, je ferai tout ce que vous voudrez. Il prend le manteau de l'Indien et le porte avec vénération, suivi de sa maison vers la chapelle. Ce n'est pas fini. Le jour suivant, il se rend en compagnie de Diego jusqu'au lieu de l'apparition pour étudier la construction d'une belle église en l'honneur de la Vierge Marie. Mais pendant ce temps, le vieil oncle de Jean Diego attendait dans sa cabane l'arrivée du prêtre. La mort approchait. Mais voici soudain qu'une grande lueur éclaire la pièce. C'est la Vierge Marie. Comment vous portez-vous, mon fils? Ne craignez rien, je suis le salut des infirmes. Levez-vous et allez aider Jean Diego à me bâtir un sanctuaire sur la colline de Tepeyac. Je veux y être invoqué sous le nom de Notre-Dame de Guadalupe. Le vieil oncle retrouve Jean Diego. Quelle joie! Mais que peut bien signifier ce nom de Guadalupe? Quand l'évêque apprend que la Vierge veut être invoquée sous ce nom, il est ému. Guadalupe veut dire « celle qui charme le serpent ». Notre-Dame veut que nous l'honorions comme celle qui triomphe du serpent infernal. Le bruit de l'apparition se répand partout. On vient de loin vénérer la sainte relique, le manteau avec l'image miraculeuse. On le transporte même en triomphe à la cathédrale, sous les vivats des Mexicains si exubérants. Le soir, on danse, on chante en l'honneur de Notre-Dame. Quelle joie pour tout le bon peuple mexicain. Par malheur, un accident vient ternir la fête. Une flèche échappée malencontreusement d'un soldat atteint un Indien à la gorge. Ce n'est plus qu'un cri. L'Indien va mourir. Mais soudain, tous pensent à Notre-Dame, Notre-Dame de Guadalupe. C'est elle qui guérira l'Indien. Elle fera ce miracle. Notre-Dame de Guadalupe, rendez la vie à ce fils qui est à vous. Et la Vierge accomplit le miracle. Elle inaugure ainsi toute une longue série de prodiges qui durent jusqu'à nos jours. Maintenant, nous voici devant l'église provisoire où reposèrent avec l'image de Notre-Dame de Guadalupe les corps de Jean Diego et du vieil oncle. Miraculés après l'apparition, ils passèrent les dernières années de leur vie à garder ces lieux où la Vierge leur était apparue. Aujourd'hui, une grande basilique s'élève à cet endroit. Elle fut achevée en 1709. Là, l'image sainte repose solennellement. À partir de ce jour, le paganisme disparut du grand peuple mexicain, qui est désormais un des peuples les plus chrétiens du monde. Connaissez-vous l'histoire du joueur de Notre-Dame? La voici telle que la raconte encore aujourd'hui certains moines. Apprenez à travers elle que Dieu aime les cœurs purs. Dans un village du Moyen Âge, les vendeurs sortent leurs riches étoffes et leurs draperies de velours, des habits de soie, des vêtements parfumés, tout y est. Les villageois s'en donnent à cœur joie. On danse, on crie, on chante, on rit, on boit. Les saltimbanques et les prestidigitateurs amusent la foule par leur fantaisie. Parmi eux, un certain Bartolo, un vieux jongleur. Tout le monde ici le connaît bien. On aime le plaisanter, ce brave Bartolo. Comment fais-tu, Bartolo, pour gagner ton pain maintenant que tu es si âgé? Et Bartolo répond de son mieux. J'essaie au moins d'amuser les enfants. Et devant les yeux amusés de la foule, il sort une série de balles qu'il lance en l'air sans s'arrêter. Ajoutant à la difficulté, il jongle avec des couteaux effilés comme des rasoirs. Et tout le monde applaudit cet exploit. Le voici équilibriste de grande classe, dans un exercice où décidément, on ne finira pas de parler de lui. Le spectacle fini, notre jongleur demande l'aumône. L'argent pleut. Son succès est tel qu'il est appelé par le seigneur du château qui a entendu parler de lui. On lui demande de divertir les convives. Je sais faire peu de choses, Seigneur, mais je le ferai de tout mon cœur. Il reçoit en récompense 3 écus d'or. Et pourtant, quand les clameurs se sont tues, quand les lampions de la fête se sont éteints, Bartolo se retrouve seul. Vierge Sainte, recevez ma prière. Donnez-moi votre bénédiction. Protégez-moi, restez près de moi. Le soir tombant, il s'abrite contre la pluie, sous l'arche des vieux ponts, et il pense à ceux qui ont une famille qui les attend, un foyer, une maison. Ils ne connaissent pas leur bonheur.
Mais un jour, une terrible tempête se lève. Le gel lui glace le visage. Ses pieds et ses mains sont gelés. Bartolo tombe dans la neige. Il est seul. Il va mourir seul. Vierge Sainte, protégez-moi. Soyez près de moi à l'heure de ma mort. Il est là dans la neige depuis un moment, quand soudain quelques frères d'un monastère voisin l'aperçoivent. Ils lui donnent les premiers secours, un bon verre de liqueur, puis le portent à l'infirmerie du monastère. Bartolo va mieux, il parle. Père gardien, vos frères m'ont sauvé la vie, et je ne sais comment vous remercier. Père gardien lui demande ce qu'il compte faire à présent. Mon père, je n'ose vous demander une grâce. Et pourtant, si vous me le permettiez, je serais heureux de finir mes jours dans la paix de cette maison. Et c'est ainsi que Bartolo devint frère et prit le nom de Bartolo de Notre-Dame. Un jour au couvent, tous les moines sont en grande activité. Voici que s'approche la grande fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, qui tombe le 15 août. Ce jour-là, il est d'usage de faire une grande fête pour faire plaisir à notre Mère du Ciel. Certains moines peignent de jolis tableaux, d'autres sculptent de belles images. Seul Bartolo ne sait rien faire de ses 10 doigts. Il entend Frère Ange qui, pour la fête de l'Assomption, pense finir recopier les écrits des saints en l'honneur de Notre-Dame. Et il pense, « Ben moi, je ne sais pas écrire. » Il n'en peut plus. Il va voir le bon père gardien. « Bien cher père, demain sera le 15 août, fête de l'Assomption, et je suis triste parce que je n'ai rien fait en l'honneur de Notre-Dame. » Le père gardien sourit et répond, « Voyez-vous, père Bartolo, il y a des années mourut dans ce couvent un certain frère Sébastien. Il était si ignorant qu'il nous faisait de la peine. La seule prière qu'il sut dire était les mots « Marie » qu'il répétait tout le long de la journée. Eh bien, le jour où il mourut, frère Bartolo, nous vîmes Sainte-Rose fleurir sur ses lèvres autant de fleurs qu'il y a de lettres dans le mot « Marie ». Frère Bartolo médite les paroles du père. Puis il a une idée. Il monte au grenier et tire d'un vieux coffre de bois ses vieilles balles d'autrefois qui se mettent à astiquer précieusement. Quoi ? Frère Bartolo qui va à la chapelle avec un habit d'arlequin et un coffre de bois. Mais aurait-il perdu la raison? Vite, avertissons le père gardien. Père gardien, frère Bartolo a quitté son habit religieux pour revêtir l'habit de saltimbanque. Mais chut, le voilà qui parle. Voici, ma souveraine, la seule chose que je puisse vous offrir. Port Bartolo, un amusement pour votre petit enfant. et on voit Bartolo se mettre à jongler. À jongler avec tant de cœur que la Vierge Marie, sortant de son immobilité, présente son enfant au brave Bartolo et lui dit: merci, merci frère Bartolo pour votre jeu magnifique. Mon petit enfant veut vous remercier. Merci, merci encore frère Bartolo. Quant à nos deux religieux, ils pensaient en eux-mêmes: bienheureux les simples, car le royaume des cieux est à eux. Maintenant, vous contez l'histoire de Plume d'Argent. Plume d'Argent est un petit sauvage, fils d'Aigle Noir. Vous avez tous entendu parler de ce chef indien, très connu. Eh bien, écoutez maintenant l'histoire de son fils Plume d'Argent. Vous verrez qu'être chrétien a coûté quelquefois de grands sacrifices. D'argent, notre petit indien vit dans la forêt et chasse toute la journée. Or, il y a peu de temps, un père missionnaire est arrivé au village. Il s'agit du père Antoine. Il fait le catéchisme, il a même construit une petite école pour enseigner. Après une année de prières, de sacrifices et de peines, il recueille ses premiers fruits. Une famille entière se fait chrétienne. Jean, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Plume d'Argent voudrait bien devenir chrétien lui aussi. Mais son père, Aigle Noir, ne veut pas en entendre parler. Il ne veut même pas le voir ouvrir son catéchisme. Pourtant, le père missionnaire lui avait bien dit: le catéchisme est bien plus grand, bien plus important qu'un simple livre, Plume d'Argent. C'est la clé qui nous ouvre les portes du ciel. Le sorcier n'aime pas beaucoup les missionnaires. Cet homme blanc vêtu de noir qui adore un autre homme blanc sur une croix ne plaît guère au sorcier. Je vais invoquer sur lui l'esprit de la mort. Le sorcier va trouver le chef Aigle Noir. Ton fils, Plume d'Argent, est en train d'apprendre des choses dans un livre qui vont attirer sur nous la colère des grands esprits. Tu dois empêcher Plume d'Argent de voir l'homme blanc. Et Aigle Noir interdit à Plume d'Argent d'aller voir l'homme blanc comme le lui avait demandé le sorcier. Mais Plume d'Argent a justement appris dans son catéchisme qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. La nuit, il se lève doucement et sous la douce clarté de la lune, il apprend son catéchisme. Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, le servir dans cette vie et pour jouir de lui dans l'autre vie, au paradis. Et certaines nuits, Plume d'Argent va s'agenouiller devant la chapelle qu'a construit le père Antoine. La porte est fermée à clé, mais il sait qu'à l'intérieur, Dieu est présent dans le tabernacle et il l'adore. Le sorcier qui a eu vent de l'affaire va chercher Aigle Noir. Regarde, Aigle Noir, ton fils Plume d'Argent te trompe. Il prie le dieu de l'habit noir. Il faut le châtier. Et Aigle Noir condamne son fils à recevoir 50 coups de fouet. Et les coups pleuvent terribles sur Plume d'Argent donnés par le grand sorcier. Mais ce n'est pas tout. On a décidé de tuer le missionnaire. Le grand sorcier dit à Aigle Noir, « J'ai déjà préparé les flèches empoisonnées. Va chercher l'homme blanc, dis-lui que Plume d'Argent est malade et veut le voir. Puis tu le conduiras près du grand baobab, l'arbre de la prairie. Je serai là avec mes flèches. » Et Aigle Noir va chercher le missionnaire. Mais Plume d'Argent, entendu le sorcier et Aigle Noir discuter le plan diabolique. Il essaye de se détacher. Par miracle, un des liens n'est pas serré. Il arrive à faire sauter la corde qui lui serre les poignets. Il va aller chercher le missionnaire et l'avertir du danger qu'il court. Mais il n'arrive pas à marcher. Il n'en peut plus. Les 50 coups de fouet qu'il a reçus l'ont essoufflé. Il est tout sanglant. Il trébuche, il se lève, il continue. Il n'en peut plus. Cette fois-ci, il ne pourra plus se relever. Alors, Plume d'Argent, dans un immense élan du cœur, donne sa vie pour celle du missionnaire. Jésus, sauvez le père Antoine, je vous donne ma vie à sa place. Il finit par rejoindre le sorcier et son père qui attendent l'arrivée du missionnaire avec l'arc et les flèches. Puis, tout se passera très vite. Plume d'Argent s'approche du lieu de la rencontre fatale. Pendant ce temps, le père Antoine, priant pour son Plume d'Argent, chemine dans la forêt et marche sans s'annoter vers la mort. Plume d'Argent rassemble ses petites forces restantes et s'approche du lieu du rendez-vous fatal. Là, il fait un grand signe de croix. Puis, il fait rouler quelques pierres pour attirer l'attention sur lui et il fait bouger les buissons. Le sorcier tend l'arc. La flèche part. Elle atteint Plume d'argent qui tombe sans même un cri. Antoine, qui arrivait à ce moment, voit son petit Plume d'argent tomber dans l'air d'une flèche en pleine poitrine. Aigle noir accourt aussi en criant le nom de son fils. Le missionnaire prend l'enfant dans ses bras. Plume d'argent a le temps de parler une dernière fois. Père Antoine, vous me la donnez, cette eau qui ouvre les portes des cieux. Vous savez que je sais bien mon catéchisme. Je le sais tout. Le père sent de grosses larmes rouler sur ses vieilles joues. Oui, mon fils, je vais te donner le baptême. Quel nom veux-tu porter? Et l'enfant répond, le vôtre, père, Antoine. Et le missionnaire baptise l'enfant. Antoine, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Aigle noir prend son enfant dans les bras. Il lui demande pardon et lui promet de devenir chrétien, car il veut le revoir un jour dans le ciel. Et les anges de Dieu accueillent l'âme de notre petit héros et l'amènent au ciel. Le sang d'Antoine n'aura pas coulé en vain. Le sorcier a été chassé et tout le village maintenant apprend le catéchisme. D'autres missionnaires venus de France vont aider le père Antoine. Même Aigle Noir, qui l'eût cru, étudie son catéchisme. Quelquefois on l'entend murmurer, « Seigneur, faites que je puisse rejoindre vite au ciel mon Antoine. Il était si bon, mon Plume d'argent. » Puis, il se penche sur son livre et on l'entend dire « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » Connaître l'histoire de l'homme qui recherchait le diable, une légende irlandaise. Nous allons apprendre dans cette histoire jusqu'où peut nous mener les curiosités inutiles et dangereuses. l'Irlande est un très beau pays, baigné par l'océan Atlantique. Son herbe est si verte qu'on l'appelle l'île d'Émeraude. Dans la verte campagne d'Irlande, chevauchait un jour un chevalier nommé Donegal. Où allait-il, ce preux chevalier? En quête d'aventure comme tous ses semblables. En fait, il allait en quête de quelqu'un de peu ordinaire, le diable. Ainsi, notre chevalier recherchait le diable. Il le cherchait surtout auprès des récifs et des rochers où la mer s'abîmait dans un fracas épouvantable. Ou dans les profondes cavernes où résonnaient les rumeurs de l'océan, mais là aussi, aucune trace du diable. Quelquefois, il demandait à un paysan rencontré en chemin, « Où diable ?» c'est le cas de le dire, il pouvait trouver le diable. Mais celui-ci faisait son signe de croix et s'enfuyait effrayé, et notre bon cavalier continuait sa route à la recherche du diable. Trouve un vieillard à barbe blanche à qui il renouvelle sa demande insolite.
Le diable ? Répond le vieillard. Ah oui, c'est bien facile, proche chevalier. Suivez cette route à gauche jusqu'à ce que vous aperceviez la tour d'un château. Là, frappez à la porte et vous verrez.
Le château apparaît enfin à l'horizon. Arrivé devant la porte, Donegal frappe de vigoureux coups de heurtoir qui résonnent dans le silence de la forêt. La porte s'ouvre lentement et apparaît une vieille, ridée, sans dents, tout à fait semblable à une sorcière. Le chevalier lui dit qu'il veut rencontrer le diable. La vieille dame sourit et l'invite à entrer. Quand il se trouva dans le château, la vieille lui dit
« Je te ferai voir le diable, mais toi, tu devras faire ce que je t'ordonnerai. »
Le chevalier qui avait tant cherché était bien prêt à accepter. Il accepta. La vieille reprit
« Eh bien, reprenez votre chemin. » Là, vous rencontrerez une maison couverte de lierre et un enfant jouant devant la porte. Eh bien, emmenez-moi cet enfant.
Donegal fit ce que la vieille lui avait dit. Il trouva la maison et l'enfant aux yeux bleus et aux cheveux noirs. Rapidement, il prit l'enfant dans ses bras et le ramena au château. Pendant le trajet, l'enfant s'adressa à Donegal.
Où m'emmenez-vous, beau chevalier?
Maman va pleurer de ne pas me trouver devant la porte de la maison. Et Donegal lui répondit qu'il l'amenait dans un beau château et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Me ramènerez-vous à la maison? Lui demanda l'enfant. Quand ils furent en vue du château ?
Oui, je te ramènerai à la maison, répondit distraitement Donegal, qui brûle d'impatience de voir enfin le fameux diable. La vieille les fait entrer et les conduit à travers les couloirs du château. L'enfant effrayé se blottissait contre Donegal. Ils arrivèrent enfin dans une grande salle circulaire avec au milieu une grande table sur laquelle se trouvait une bassine en bronze et une épée effilée. La vieille prit Donegal à part et lui dit que s'il voulait voir le diable, il devait tuer l'enfant et lui donner son sang. « Tuer l'enfant ?» s'exclama le chevalier. « Mais sa mère l'attend à la maison. En ce cas, je préfère plutôt renoncer à voir le diable. » À peine avait-il prononcé ces paroles qu'il se fit une explosion comme si 100 feux d'artifice éclataient ensemble dans le ciel. Et Donegal se retrouva dehors. En face de lui apparut lumineuse l'image d'un ange, au milieu d'un lac limpide. Et l'ange lui dit « Tu t'es arrêté à temps, Donegal. Puisque tu veux voir le diable, tu vas être satisfait. Regarde, regarde donc dans ce lac. Donegal se penche sur l'eau et à la place de sa propre image, il voit celle du diable. L'ange lui dit, le diable que tu recherches, il est au-dedans de toi, Donegal. Chaque fois que nous nous proposons de faire une mauvaise action, nous laissons entrer le démon en nous. Grâce à Dieu, tu as refusé de tuer l'enfant aux yeux bleus, brisant le sortilège. Mais tu n'as pas rendu l'enfant à sa mère, Donegal. Maintenant, cet enfant est au fond du lac, mais tu peux le repêcher. Seulement, prends garde, car dans ce lac, tu auras à combattre contre un féroce serpent. Donegal répondit qu'il ramènerait l'enfant à sa mère, puis plongea dans le lac. Tout au fond du lac, près d'une caverne, il vit un féroce serpent qui lui barrait l'accès de la caverne. Le reptile cracha un liquide vénéneux dès qu'il vit Donegal. Mais Donegal se jeta sur le monstre et lui plongea l'épée dans le corps. Le sang se mit à colorer l'eau. Il fallait faire vite et trouver l'enfant avant que l'eau ne soit toute rouge. Enfin, l'enfant apparut entre les anneaux du serpent. Donegal le libéra de l'étreinte du monstre, le prit dans ses bras et le ramena à l'air libre. L'ange était encore là qui l'attendait et l'ange lui dit « C'est bien, Donegal. Maintenant que tu as accompli une bonne action, le démon n'est plus en toi. » Et si tu te penches sur l'eau du lac, tu retrouveras ton propre visage. Va et reporte l'enfant à sa mère. Donegal remonta cheval et se dirigea au grand galop jusqu'à la maison couverte de lierre. Une fois arrivé, il descendit de cheval et porta à la pauvre mère tout en larmes l'enfant qu'elle croyait ne jamais revoir. Donegal avait eu la curiosité de connaître le diable, mais sa bonté avait eu le dessus, et maintenant il pensait dans son cœur qu'une bonne action vaut plus que 1000 inutiles curiosités.